merci d'être avec nous sur Radio Galaxy, la radio du sud de Toulousain. Et nous allons parler alimentation, nous allons parler agriculture, nous allons parler circuit court, nous allons parler écologie, nous allons parler environnement, tout ça en même temps, en compagnie de Frédéric Morisseau. Bonjour.
Bonjour.
Président de l'association Mille Pattes.
Tout à fait.
Et avec Simon Bulté. Simon, bonjour.
Bonjour.
Simon, qui est chargé de mission agriculture et alimentation de proximité à la communauté de communes du Volvestre. C'est bien ça?
Tout à fait.
Mille Pattes, c'est quoi, Frédéric?
Alors, Mille Pattes, c'est une association qui réunit ce que j'appelle des citoyens consommateurs, des agriculteurs, des élus locaux, et qui a pour objectif de favoriser ce qu'on appelle la relocalisation de l'agriculture, les circuits courts, qui visent à faciliter l'approvisionnement local de la restauration collective.
On en a déjà parlé un petit peu dans une précédente émission. Ça rassemble des professionnels et des citoyens, je dirais, qui sont concernés par ce problème-là.
C'est ça. Il nous semble important de réunir dans une même association pour mener à bien nos projets les différentes catégories d'acteurs, les agriculteurs, les professionnels de la restauration collective, des élus locaux et des citoyens.
Et Simon Bulté, vous êtes chargé de mission. Ça consiste en quoi au niveau de la communauté de communes, votre travail?
Alors, je suis chargé de mission d'un projet qui s'appelle Projet alimentaire de territoire du Volvestre, un outil qui est à disposition des collectivités pour, quelque part, mettre autour de la table tous les acteurs de l'alimentation et de l'agriculture locale pour ensemble se concerter et mener des projets pour améliorer la qualité du système alimentaire.
Juste petite précision, vous me dites des collectivités, vous me parlez d'acteurs, les acteurs sont les professionnels, ce ne sont pas les collectivités.
Alors les professionnels sont mobilisés par les institutions qui les représentent ou même parfois directement, les associations comme Mille Pattes ou d'autres également, et on s'appuie aussi évidemment sur les communes pour lesquelles on travaille.
Quel est le lien entre vous deux? Pourquoi vous êtes ensemble?
Alors, nous avons été sollicités par la communauté de communes du Volvestre pour participer et mener à bien un diagnostic du territoire d'un point de vue agricole et alimentaire que nous avons réalisé il y a 2 ans. D'où une collaboration qui s'est établie sur un certain nombre d'actions entre Mille Pattes et la communauté de communes du Volvestre.
Ce qui veut donc dire qu'il y a eu cette photo, entre guillemets, qui a été prise sur le territoire du Volvestre. Et d'après cette photo, il y a des conseils, des prévisions, des projections qui sont faites, c'est ça?
Tout à fait. Ce diagnostic, il était vraiment nécessaire avant l'élaboration du projet pour dresser un constat d'abord et puis pour ensuite aussi proposer des pistes d'action qui ont été ensuite travaillées, discutées en interne à la collectivité, proposées aux élus. C'est ce qui nous a permis vraiment de cibler et d'affiner nos axes de travail prioritaires.
C'est essentiellement à destination des élus donc?
Ce diagnostic, il est à destination des élus, mais c'est aussi un document qui est public, qui est à retrouver sur le site de la communauté de communes et qui permet à quiconque s'intéresse aux problématiques alimentaires aussi d'avoir cette photographie du territoire et de mieux comprendre aussi comment la collectivité peut s'en saisir.
Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de ce diagnostic, de cette photo du territoire du Volvestre. Quelles sont ses composantes? De quoi est constitué ce territoire? Quels sont ses atouts? Et quelles sont ses poids, on va dire?
Tout à fait.
Oui, on sait bien qu'un territoire, c'est quand même lié à un contexte à la fois géographique et historique. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce type d'agriculture, ce type d'alimentation sur notre territoire?
Alors, remontons déjà aux origines. On est ici à Rieux-Volvestre. Rieux-Volvestre a été à l'origine créé par des moines dominicains, et qui dit présence monastique, dit forcément agriculture. Ils ont impulsé une agriculture extraordinaire. D'où cette diversité agricole, y compris la production de vin, les vignes. Tout près, on a Montesquieu Volvestre, connu pour ses draperies. Alors quand on dit draperie, on dit certainement production de lin ou de chanvre. Donc historiquement, une agriculture diversifiée et productive. Et on en est toujours là. Aujourd'hui, 50% de la population du Volvestre est employée dans l'agriculture. Alors l'agriculture et les métiers liés à l'agriculture, tandis que si on compare à la moyenne de la Haute-Garonne, c'est 0,8%. Un territoire très agricole.
Agriculture et métiers connexes à l'agriculture, c'est-à-dire ceux qui vont du ramassage à la transformation.
Alors effectivement, et ce côté transformation est très important. Parce que l'une des contraintes de la Haute-Garonne, et le Volvestre n'y échappe pas, c'est qu'on a une production agricole significative, mais assez peu d'outils de transformation. L'un des avantages du Volvestre, relatif, mais qui est présent, c'est qu'on a 2 meuneries. Et l'un des enjeux, si on regarde la production, ce qu'on appelle les grandes cultures, hein, les céréales, le tournesol et même le soja, céréales, blé tendre, blé dur, c'est qu'ils sont très très majoritairement vendus sur le marché international, avec de fortes variations, de forts aléas.
C'est-à-dire que ce qui est produit ici en Volvestre part à l'international.
Effectivement, soit pour l'alimentation humaine, soit pour l'alimentation du bétail, soit vers le sud, vers l'Espagne, soit davantage vers les ports du nord. Mais c'est la situation. Donc cette production de grande culture est importante, mais l'enjeu, c'est aussi davantage de valorisation locale.
Grande culture, c'est une raison économique qui fait qu'on est passé de culture, je dirais, presque vivrière ou familiale à des cultures plus industrielles, plus entrepreneuriales, pour des raisons économiques donc. Et aujourd'hui, pour ces mêmes raisons économiques, parce que les marchés sont en modification, parce que les marchés sont certains en tension, on peut remodifier cette approche.
C'est ça. On est parti d'une agriculture vivrière, produisant des vivres pour la production locale, à une agriculture spécialisée, prenant en compte les avantages concurrentiels du territoire. Donc, en terre de vallée, des grandes cultures, sur les coteaux de l'élevage. Mais aujourd'hui, quand on parle de relocalisation de l'agriculture, on doit prendre davantage en compte les besoins locaux. Donc, perspective intéressante pour les céréales, c'est davantage de valorisation locale, et notamment, par exemple, le blé dur qui sert à fabriquer des pâtes, donc produire davantage de pâtes en local, revaloriser...
Des pâtes alimentaires, on est d'accord.
Des pâtes alimentaires, hein. Oui, effectivement. Revaloriser certaines céréales anciennes pour produire davantage de farine, c'est tout ça. Et en plus de ça, l'un des inconvénients de ces grandes cultures, c'est qu'elles sont extrêmement consommatrices d'intrants. Alors quand on parle intrants, on parle engrais et pesticides. Et on doit prendre ce virage agroécologique. Ces intrants, ils polluent les nappes, ils polluent la Garonne. D'où la nécessité d'une meilleure valorisation des produits à travers des pratiques plus agroécologiques. Et notamment, l'intérêt d'introduire dans les rotations culturales, on en reparlera dans une autre émission, les légumes secs, c'est-à-dire les légumineuses qui fixent l'azote, notamment la lentille. Ça, c'est pour le contexte des grandes cultures. Je peux poursuivre deux mots sur l'élevage. Donc, effectivement, dans les coteaux, hein, le paysage du Volvel, vous le connaissez tous, dans les coteaux, il y a de façon ancestrale une activité d'élevage. Et l'avantage, c'est que c'est tout à fait bien adapté en termes de préservation de la biodiversité, en termes de lutte contre l'érosion. Et ce qu'on a découvert également, c'est que cet élevage, même si c'est les ruminants et on sait qu'ils émettent du méthane, il est extrêmement capteur de CO2, donc extrêmement bon, vertueux par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc il faut absolument le préserver. Mais ce sont des travaux pénibles, mais il y a un gros enjeu là, de transmission des exploitations et là aussi de meilleure valorisation locale. Parce que si on parle des bovins, ils sont vendus principalement à l'état maigre vers l'Italie et vers l'Espagne, quand en même temps on observe qu'à Toulouse, 75% de la viande bovine vient de l'importation. Donc là, il y a des circuits à revoir et à rétablir.
On va y revenir un petit peu après. Monsieur Bulté, cette photo du territoire, elle a été faite comment, par qui ?
Alors, elle a été réalisée par deux étudiants de l'ENSAT, donc une des écoles d'agronomie supérieure de Toulouse. Ces deux étudiants ont été donc hébergés dans nos locaux à la communauté de communes, accompagnés par nos services et également chapeautés et encadrés par Milpat, par l'association Milpat, qui a aussi apporté quelque part son expertise.
Et ça a pris combien de temps ? Comment ça s'est déroulé ? C'était des questionnaires qui ont été portés ? Ils sont allés sur le terrain ?
Alors, ça a pris six mois. Effectivement, il y a eu des questionnaires, ils ont interrogé la plupart des acteurs. Il y a eu un certain nombre de réunions thématiques avec des élus et des professionnels. Il y a eu également une présence sur le marché, une présence de ces étudiants sur le marché qui ont permis de recueillir les points de vue et les desiderata de public très large.
Donc, sur l'histoire du territoire, sur la composition agricole, ça nécessite des changements. Des changements qui sont induits à la fois par le marché, à la fois par les modifications du climat et à la fois par les débouchés. On demande donc à nos agriculteurs de changer ou pas ?
On leur demande de changer, et notamment vers des pratiques plus agroécologiques, ce qu'on appelle l'utilisation de couverts, c'est-à-dire ne pas laisser le sol nu, introduire des légumineuses dans la rotation, mieux gérer l'eau qui est une ressource extrêmement, extrêmement rare, il y a tout ce type de changement. Et puis, quand on parle de changement, ça n'est pas que le fait des agriculteurs. Il y a effectivement l'opportunité d'approvisionner davantage local et en priorité les restaurations collectives, ce qu'on appelle les cantines scolaires ou autres, sur des circuits courts.
Et ça, c'est plutôt votre partie à vous, M. Bulté.
Oui, effectivement, l'accompagnement de la restauration collective vers le changement, c'est un des deux axes forts du projet alimentaire de territoire qui est porté en Volvestre. Ça correspond donc à la fois aux enjeux de transition qu'a évoqué Frédéric, mais ce sont aussi des attentes sociétales qui sont très fortes de la part des parents d'élèves, des citoyens, même des maires. Notre rôle en tant que collectivité, c'est d'outiller les communes vers ce changement. Alors bon, les leviers d'amélioration de la restauration collective, ils sont divers. Donc il y a tout ce qui concerne effectivement l'approvisionnement, hein, de s'orienter vers une production agricole et des filières agroalimentaires plus respectueuses de l'environnement, le soutien à l'agroécologie, à l'agriculture biologique par la commande publique, parce que par exemple sur un territoire comme le Volvestre, on parle de 6000 repas quotidiens, donc on a une force de frappe qui est assez importante pour améliorer les choses. Il y a également tout ce qui concerne les pratiques alimentaires. Ce sont des choses qui ne sont pas évidentes à mettre en place, mais on peut diversifier les apports protéiques, modifier un peu les menus pour accorder davantage de place aux légumineuses dont parlait Frédéric, sans pour autant négliger la viande. Au contraire, même les économies qu'on peut réaliser avec l'approvisionnement en légumineuses, ça peut permettre d'avoir de la viande de meilleure qualité. Donc quand on parle par exemple d'un repas végétarien, il faut aussi le voir, un végétarien par semaine, on peut aussi le voir comme une façon quelque part de dégager des économies pour avoir une viande de meilleure qualité produite localement. Et puis il y a ensuite tout ce qui concerne aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire, puisqu'il y a 30% de ce qui est produit dans le monde est aujourd'hui gaspillé à toutes les étapes de la chaîne, mais également en restauration collective, donc ça nécessite des ajustements aussi dans les pratiques des communes et des unités de restauration collective, avec des portions qui sont peut-être plus adaptées aux besoins, aux envies des élèves, ce qui nécessite de prendre en compte leur goût. Et la question du goût, des goûts individuels des élèves, elle est très importante également pour accompagner ce changement, puisque si on force les enfants à manger des choses qu'ils ne connaissent pas, comme ça a pu être fait par le passé, ça ne fonctionne pas. En revanche, si on leur présente des aliments successivement et qu'on leur donne une image positive de ces nouvelles recettes, que ce soit en faisant intervenir des producteurs, que ce soit en créant plus de liens avec les cuisiniers, ça peut fonctionner. Donc là, concrètement, ces derniers mois, on a accompagné deux communes du territoire, Lavelanet de Comminges et Longages, qui sont deux unités de restauration collective très différentes, puisque Longages, c'est de l'ordre de entre 400 et 500 repas, alors que Lavelanet, c'est moins de 60 repas. Mais pour autant, il y a des problématiques communes. L'accompagnement, c'était d'abord un diagnostic des achats, hein, de savoir recenser l'offre existante et la comparer aux achats actuels de la restauration collective pour voir quels produits qui sont issus des circuits internationaux et commerciaux peuvent être remplacés par des produits locaux, et surtout après trouver des leviers aussi pour connecter les producteurs locaux avec les acheteurs de la restauration collective.
Le fond du problème, en fait, c'est que si on modifie les pratiques culturales ou d'élevage sur le territoire, on les modifie pour qu'elles correspondent plus au marché ou aux attentes sociétales, comme le disait M. Bulté, ou aux attentes environnementales, il faut qu'il y ait des débouchés, il faut que les agriculteurs puissent s'y retrouver.
Oui, il faut des débouchés qui soient pécuniairement intéressants pour eux, puisque la transformation a un coût. Et effectivement, la demande publique est là en partie. On a aussi beaucoup de restaurateurs. Alors, on est quand même pas très loin de Toulouse, où là, il y a une forte attente en produits locaux. Donc, il y a tout un travail d'organisation et de réorganisation des filières, puisque ces restaurateurs, ils sont preneurs de produits locaux. Mais ils ne savent pas toujours où s'adresser, comment s'adresser et avoir une offre qui contractuellement soit stable, qui permette effectivement en volume et en qualité et en prix de répondre à leurs besoins, à leurs exigences.
Donc ça, c'est tout le travail qui a été mis en place après cette photo, dont ce qu'on appelle le PAT, le projet d'alimentation du territoire, c'est ça ?
C'est ça.
Ce projet permet de moderniser, entre guillemets, la production locale afin qu'elle réponde à des besoins de circuit court, des besoins de qualité et des besoins d'économie d'échelle.
Et de transition agroécologique.
Eh bien, ça nous laisse pas mal d'émissions à poursuivre pour avoir plus d'informations sur ces sujets-là, je pense. Et on se retrouvera prochainement pour compléter un petit peu cette vision du territoire agricole et savoir comment on peut aider à la fois les consommateurs et les producteurs à mieux s'alimenter et à mieux produire, non ? À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.